Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci de m'accompagner dans ce tour d'horizon. Veuillez noter, chers auditeurs, que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question de l'avortement en Pologne et au Québec, des effets du cannabis sur le quotient intellectuel, du changement de cap du ministre Proulx et de bonnes nouvelles en rafale, dont la collecte des résidus alimentaires à Montréal-Nord, une marche en mémoire des victimes des décès en milieu de travail sur le Mont-Royal et un partenariat pour l'avancement de la recherche en santé au Nouveau-Brunswick. Débutons par cette nouvelle. IVG menacée en Pologne. Les épouses d'anciens présidents protestent. Selon les informations de l'AFP, l'agence France-Presse, publiée sur la plateforme Le Point, les épouses de trois anciens présidents polonais ont dénoncé dans une lettre ouverte, mardi dernier, une proposition de loi visant à interdire presque totalement l'avortement en Pologne. Voici ce qu'elle nous dit. « Nous accueillons avec une grande inquiétude l'idée d'abandonner le compromis de 1993 sur la loi anti-avortement », ont écrit les anciennes premières dames. La loi en vigueur en Pologne, considérée comme un compromis entre l'Église et l'État, autorise l'interruption volontaire de grossesse dans trois cas. Le risque pour la vie ou la santé de la mère, l'examen prénatal qui va indiquer une grave pathologie irréversible chez l'embryon, ou une grossesse résultant d'un viol ou d'un inceste. Donc, toujours selon l'AFP, qui est publié sur la plateforme Le Point, des organisations anti-avortement viennent de soumettre au Parlement, avec le soutien de l'Église catholique et des conservateurs au pouvoir, un texte durcissant cette législation. Selon leur proposition, une IVG serait uniquement autorisée si la vie de la mère était en danger. Le texte porte sur la peine maximale pour la personne qui pratique l'avortement à 5 ans de prison contre 2 ans actuellement. Selon les estimations des organisations féministes, entre 100 000 et 150 000 femmes ont recours à l'IVG chaque année en Pologne, clandestinement ou dans des cliniques allemandes, slovaques ou autrichiennes. Le nombre d'avortements autorisés en Pologne, qui est un pays de 38 millions d'habitants, oscille entre 700 et 1800 par année. Écoutez, mesdames et messieurs, au prorata, j'estime que si la loi de 1993 en Pologne était appliquée au Canada, nous aurions entre 150 et 350 avortements par année au lieu de 27 à 30 000. Imaginez-vous que si au Canada, on avait une loi qui disait « on refuse les avortements sauf s'il y a un risque pour la vie ou la santé de la mère », sauf si un examen prénatal qui indique une grave pathologie irréversible chez l'embryon ou une grossesse qui résulte d'un viol ou d'un inceste. Et là, mesdames et messieurs, ce que ça ferait si on avait cette loi qui apporterait ses limites ici au Canada, eh bien, on passerait de 150 à 350 versus 27 000 à 30 000 aujourd'hui, tout simplement parce qu'il n'y a aucune loi qui encadre ou qui restreint les avortements. Maintenant, on peut voir un autre article qui parle de cette situation-là en Pologne sur la plateforme Le Devoir. Maintenant, au Canada, ce qui préoccupe la population en matière d'IVG, c'est la question des avortements sélectifs. Dans un article intitulé « Pas d'inquiétude au sujet des avortements sélectifs », Le Devoir nous indique qu'au Canada, deux nouvelles études montrent que depuis 20 ans, il y a un nombre anormalement élevé de petits garçons dans les familles canadiennes d'origine indienne, surtout à partir du troisième enfant. Donc, il y a deux études, une qui touche le Canada dans son ensemble et une autre qui touche spécifiquement l'Ontario. Dans l'ensemble de la population canadienne, le ratio est de 105 garçons pour 100 filles, alors que chez les mamans d'origine indienne, on recensait 138 garçons pour 100 filles à partir du troisième enfant. L'étude touche 6 millions de naissances. Donc, ce n'est pas simplement 1000 personnes ou 1500 personnes qu'on a comme échantillonnage. Non, 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 mesdames et messieurs. On parle d'un échantillonnage de 6 millions de personnes, ou 6 millions de naissances, devrais-je dire. L'étude ontarienne, pour sa part, a des résultats encore plus frappants. Dans les familles où la mère avait déjà eu deux filles et un avortement avant son troisième enfant, le ratio pour le troisième enfant est de 326 garçons pour 100 filles. Selon Le Devoir, au Québec, cette pratique est jugée marginale parce qu'on n'a pas beaucoup de données spécifiques là-dessus. Ce qui arrive, c'est que le sexe est révélé normalement autour de la 14e semaine. Et ça, j'ai une illustration de qu'est-ce qu'a l'air un fœtus à 14 semaines. Vous pouvez la retrouver sur ericlantier.net dans l'édition du Tour d'horizon d'aujourd'hui. Et ce qu'on nous apprend justement dans Le Devoir, c'est que puisque une grande proportion des avortements qui sont faits au Québec ont lieu dans le premier trimestre, on n'est pas en mesure de révéler le sexe de l'enfant. Et ce n'est pas une pratique courante ici au Québec. Mais ce qui arrive, c'est qu'au niveau du Collège des médecins, on reconnaît néanmoins, selon Le Devoir, que c'est une question préoccupante. Et Mme Pirotte, qui est coordonnatrice des projets à la Fédération québécoise de planning des naissances, le FQPN, elle nous a rappelé qu'il y a 3 ans, le député conservateur Mark Warawa avait proposé au Parlement de dénoncer l'avortement sélectif. Et ça, c'était la motion 408. Mais ce qui arrive, c'est que la motion 408 avait été jugée irrecevable par un comité des communes qui n'avait finalement pas été soumise au vote. Donc, la motion 408 n'a pas été soumise au vote, ce qui a fait en sorte que le Parlement du Canada n'a pas reconnu que les avortements sélectifs en fonction des sexes ne sont pas reconnus comme illégaux ou ne sont pas dénoncés par nos parlementaires. Ce qui fait en sorte que Radio-Canada nous révélait cette semaine, dans un article publié sur leur plateforme le 12 avril dernier, que justement, puisqu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'encadrement autour de l'avortement ici au Canada, contrairement comme en Pologne ou au Chili, eh bien à ce moment-là, on ne peut pas condamner l'avortement sélectif. Donc, si un couple veut absolument avoir un garçon ou un couple veut absolument avoir une fille, eh bien, il est possible de se faire avorter jusqu'à temps que le couple ait le sexe désiré. Et ce n'est pas pour rien que Richard Martineau a déjà écrit sur la plateforme du journal Voir que l'avortement est devenu un moyen de contraception ici au Québec. Ce n'est plus une opération exceptionnelle comme en Pologne ou au Chili où est-ce qu'on le fait simplement si la santé de la mère est menacée, s'il y a une difficulté de survie du fœtus ou en cas de viol ou d'inceste. Non, non. Maintenant, c'est fait pour n'importe quel motif. Et comme je vous disais préalablement, si on avait des lois comme au Chili et comme en Pologne, eh bien, on passerait, mesdames et messieurs, au lieu d'avoir 25 ou 27 à 30 000 avortements par année, on aurait 150 à 350 avortements par année si on se fie aux chiffres de la Pologne. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous parler au sujet de l'avortement? Eh bien, la pilule abortive sera-t-elle gratuite au Québec? La pilule qu'on appelle RU486. Eh bien, Santé Canada a approuvé cette pilule-là, mais elle est accessible que par l'entremise d'un médecin et n'est pas encore gratuite au Québec. C'est une question de temps. J'imagine qu'elle va devenir gratuite éventuellement parce que ça facilite la vie à plusieurs médecins. Ça évite justement des opérations en clinique. Mais il y a plusieurs choses qu'on doit savoir à cet effet et il y a déjà eu un article qui a été publié le 30 juillet 2015, donc l'an dernier, qui s'intitule « 8 choses à savoir sur la pilule abortive RU486 ». Et je vais en mentionner 2 seulement. La pilule RU486 contient 2 médicaments, du mifepristol et du misoprostol. Donc, le premier médicament empêche la production de progestérone, des hormones essentielles à la grossesse, alors que le deuxième provoque la contraction de l'utérus et l'expulsion du placenta et du fœtus. Donc, ce processus d'avortement dure entre 1 et 2 jours. En d'autres mots, la pilule RU486 va provoquer un avortement qui va remplacer l'opération chirurgicale. Donc, c'est moins coûteux et ça demande beaucoup moins d'opérations de la part du système, de la part d'une équipe médicale. Donc, c'est pour ça que cette pilule, elle est favorisée. Et ce qui arrive, c'est que si une personne prend cette pilule-là, en dehors d'un temps de fécondité, évidemment, il n'y aura pas d'avortement. Par contre, si elle est prise pendant la période de fécondité et qu'il y a eu conception, même si ce n'est pas une opération chirurgicale qui a été opérée, eh bien, il s'agit d'un avortement. Il n'y a pas simplement l'avortement, mesdames et messieurs, qui préoccupe les Québécois et les Canadiens. La question du cannabis, parce que vous le savez, bientôt, ça va être légal, ça va être permis d'en consommer pour des raisons personnelles, pour des raisons récréatives. Et ça préoccupe la population française également, pas seulement les Québécois. Ce qu'on nous dit sur la plateforme du Figaro, dans un article qui est intitulé « Cannabis ». Commencer à fumer à l'adolescence entraîne une plus grande perte de quotient intellectuel. Selon Marc Valeur, psychiatre à l'hôpital Marmottan, les effets d'une consommation régulière de cannabis sur une longue période vont affecter le quotient intellectuel des jeunes. Les dépendants à cette substance, le cannabis, sont ceux qui en consomment beaucoup et pendant des années. C'est à ce moment-là qu'on observe des vrais effets secondaires, avec notamment des états hallucinogènes et des confusions. Avant, il s'agit surtout, selon lui, de perte de mémoire. Et donc, si quelqu'un a commencé à fumer avant l'âge de 18 ans et pendant des années, ça va lui faire perdre des points de quotient intellectuel. Selon une étude néo-zélandaise publiée en 2012 dans les PNAS, et donc c'est une célèbre revue scientifique américaine, l'une des plus sérieuses jamais réalisées, avait été faite en suivant une cohorte de plus de 1000 enfants pendant 38 ans. 38 ans, mesdames et messieurs, c'est quelque chose, là. On ne parle pas de 6 mois, on ne parle pas de 3 mois, on parle de 38 ans. Et donc, chez les jeunes qui ont consommé de la marijuana avant 18 ans, on pouvait répertorier jusqu'à 8 points de QI en moins. Et ça, c'est beaucoup, ça. Mais ce n'était pas le cas pour ceux qui n'avaient jamais fumé de cannabis. Chez les jeunes qui ont fumé, non pas sur une base régulière, mais sur une base plus occasionnelle, eh bien, ce qu'on a découvert, c'est que ça entraînait des pertes de mémoire. Donc, si je résume, selon les propos, selon les dires du docteur Marc Valeur, ce qu'on retrouve, ce qu'on apprend, c'est que si un jeune, avant l'âge de 18 ans, consomme régulièrement de la marijuana, il va voir son quotient intellectuel diminuer. Ça peut aller jusqu'à 8 points. Si c'est de la consommation occasionnelle, et là, ça va occasionner des pertes de mémoire. Donc, d'une part ou d'une autre, le cerveau est définitivement atteint par la consommation de marijuana pour des fins récréatives. Il y a un autre article qui a été publié, cette fois-ci, c'est par la plateforme Le Point, lepoint.fr, qui s'intitule « Espagne, bienvenue au Salon français du cannabis ». Et dans cet article-là qui touche l'Espagne, on parle de la consommation des Français, parce que ce sont deux pays qui sont voisins. Et voici ce qu'on nous dit. « L'Observatoire français des drogues et toxicomanie a établi à 17 millions le nombre de Français âgés de 11 à 75 ans qui l'ont déjà expérimenté, et à 5 millions ceux qui en ont consommé en 2014, un tiers d'entre eux se déclarant consommateurs réguliers. Une réalité qui place le pays parmi les champions de la consommation en Europe. » Écoutez, mesdames et messieurs, ça veut dire entre 1,5 et 2 millions de Français entre 11 et 75 ans consomment du cannabis sur une base régulière. Chez les Français, sur la plateforme du Figaro maintenant, on retrouve 22 % des consommateurs parmi les 15-34 ans. Imaginez, vous avez un groupe jeunesse en France, un groupe de 30 jeunes, vous pouvez évaluer que 6 ou 7 d'entre eux consomment de la marijuana. Selon une étude québécoise sur l'alcool, le tabac, les drogues et les jeux chez les élèves du secondaire, publiée en 2014, ça fait pas longtemps, là, la proportion de jeunes de 13 ans et plus ayant consommé de la drogue pour la première fois avant l'âge de 13 ans a également baissé de façon significative depuis 2004. elle est passée de 14 % à 7 % en 2008, puis à 3,2 % en 2013. Et donc, à ce moment-là, ici, on a des statistiques différentes au Québec. C'est intéressant que ça va à la baisse. J'en suis bien content. Je voulais vous parler du virage étourdissant du ministre Proulx qui, lui, en 2008, avait fait plusieurs déclarations concernant l'abolition des commissions scolaires, comme quoi ça amènerait une plus grande marge de manœuvre pour investir dans les écoles. On voit ça sur la plateforme du Journal de Montréal qui a été publié le 13 avril dernier. Et vous avez 6 points qui sont répertoriés dans cet article. C'est vraiment intéressant. Je vous invite à le lire. Et moi, je suis déçu. Je suis déçu que le ministre, en fait, la plupart des commentateurs médiatiques s'accordent pour dire que c'est la pression de la communauté anglophone qui tienne à ces élections scolaires-là. Et puisque les anglophones appuient majoritairement le Parti libéral, eh bien, par choix politique, on a décidé de ne pas abolir les élections scolaires et les commissions scolaires. Malheureusement, ce que ça va faire, ce que ça va produire, c'est que les services aux élèves vont être affectés, puisque plutôt que de couper dans des structures qui datent du siècle dernier, qui datent du 20e siècle, eh bien, à ce moment-là, on va couper dans les services parce qu'on a besoin de couper. C'est ça qui est malheureux. En rafale, mesdames et messieurs, j'aimerais vous lire les bonnes nouvelles du jour. Qu'est-ce que nous apprend CNW Talbec? Eh bien, à Montréal-Nord, il va y avoir la collecte des résidus alimentaires, ce qu'on appelle le compost. Donc, une section de Montréal-Nord, un secteur de Montréal-Nord, qui va justement, tous les mercredis, vont être visités pour récupérer, si on veut, tous les déchets alimentaires. Et ça, ça va se faire sur une base progressive. Éventuellement, il va y avoir un deuxième secteur de Montréal-Nord, un troisième et un quatrième. Et d'ici 2019, eh bien, il va y avoir plus d'un demi-million de bacs bruns qui vont avoir été distribués aux résidents de tous les édifices montréalais de 8 logements et moins. Deuxième point, eh bien, il y a une marche pour la vie le dimanche 24 avril à Montréal. Et ce n'est pas une marche pro-vie, c'est une marche qui se veut un événement important pour venir en aide aux familles de travailleurs qui sont décédés au travail. Eh bien, ça a lieu sur le Mont-Royal à Montréal le dimanche 24 avril 2016 à compter de 11h30 AM. Et en terminant, eh bien, il y a une annonce qui a été faite comme quoi il va y avoir des gens qui vont se réunir ensemble, donc des représentants gouvernementaux, des représentants d'instituts de recherche et des dirigeants de l'industrie qui vont se réunir le 18 avril prochain pour annoncer un nouveau partenariat de collaboration qui contribuera à favoriser de nouvelles percées dans le domaine de la recherche sur le cancer. Et ça, c'est une bonne nouvelle, mesdames et messieurs. Mais sur ce, puisque le temps est déjà écoulé, eh bien, chers auditeurs, si vous désirez poursuivre la discussion, je vous invite à m'écrire à l'adresse suivante. C'est leblogueur@commercialericlantier.net. C'est leblogueur@commercialericlantier.net. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, que cette émission est disponible en tout temps sur ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir syntonisé le 92,7 FM ou radiovinouvellefm.com. Je vous dis donc à demain.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le Tour d'Horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. leblogueur@commercialericlantier.net. Le Tour d'Horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre Tour d'Horizon. Au revoir!